cheveux un petit peu gris, donc on peut se reconnaître. Je me suis rappelé, à l'époque, quand j'étais jeune, qu'est-ce que ça voulait dire entrer dans la semaine sainte? Une des choses que je me souvenais fort, dont je me souviens, c'est qu'on entrait dans la dernière semaine là, après le carême. À l'époque, c'était important pour nous, ce 40 jours. C'est un 40 jours où on se privait de bonbons. On se privait de dessert. On allait à messe à tous les jours. Il y avait quelque chose d'important. C'était une manière de vivre. Et je pense que si on prenait le temps de se rappeler nos carêmes, on aurait comme ça des souvenirs qui nous reviendraient. En même temps, il y avait comme une espèce d'expérience en tout ça. C'était de dire, bon, si j'avais mangé, bon, je vais casser mon carême, ou il faut que je me reprenne. On avait des résolutions, on avait des expressions, mais on voulait en même temps réussir notre carême. On entrait dans quelque chose qui était à la fois, je dirais, très grand. On entrait dans une espèce de mystère qui nous dépassait en même temps. Et c'est vrai que des fois, c'était un peu fatigant. C'était un peu tannant, disons, par rapport à un enfant qui a envie de bien des choses, puis quand maman nous rappelait alors, puis ça disait, ah, zut! Mais ça ne nous a pas trop traumatisés. Je ne pense pas que c'est ça qui nous a le plus traumatisés dans la vie, mais ça faisait partie de ça. Et quand arrivait la semaine sainte, ben c'est ça, c'était cette dernière semaine. Et là, dans les jours saints, on approchait d'un mystère très grand. Ce mystère, disons qu'il y avait un point culminant le jeudi saint, avec la célébration de la dernière scène, ce rappel de la dernière scène. Et là, le vendredi, c'était quand même impressionnant, l'office de 3 heures, le silence qu'il y avait là, le prêtre qui se couchait par terre, les intentions. C'était quelque chose d'impressionnant. Et pour un enfant, je ne peux pas dire que je comprenais, je pense qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, mais j'étais participant, on participait à quelque chose qui arrivait. Et après, évidemment, la cérémonie du samedi saint au soir, la veillée pascale, là aussi, il y avait beaucoup d'éléments impressionnants. Et après ça, on arrivait à Pâques, et là, évidemment, avec les cocos, avec le chocolat, enfin, les souvenirs, on venait de passer à une autre étape. Et puis, on grandissait avec ça, on était marqué par ça, et après, la routine nous reprenait jusqu'au carême suivant, je pourrais dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces choses qui sont révolues. Si je parle du carême à mes enfants, carême ou ramadan ou tout ça, disons que ça traumatise pas beaucoup de monde, hein. Il y a des célébrations, des situations qui sont importantes, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. La préoccupation n'est plus non plus de dire, bon, oui, j'ai réussi, j'ai fait mon carême. Puis quand arrivait le carême, c'était aussi, moi j'ai travaillé là-dessus dans les travaux, mais c'était le temps de faire ses Pâques. Vous savez, hein, c'est important, les Pâques, d'ailleurs c'était un des commandements de l'Église, une Pâques, une fois l'an, tu feras. C'était donc Pâques, aller au moins une fois à confesse dans l'année et aller une fois communier. Aujourd'hui, c'est plus des règlements. On n'est plus pris par cette réalité. Est-ce que l'on a tout perdu? Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est triste? C'est plus pareil. Les choses sont plus pareilles. Par contre, il existe autre chose. La religion, elle est toujours là. Mais elle n'est plus comme elle était. La religion, je dirais, du groupe, la religion collective, la pratique religieuse, on n'est plus dans une société qui est, disons, scandée, organisée autour des éléments, disons, des pratiques religieuses. Mais par contre, il se passe des éléments qui nous interpelle à un niveau intérieur, à un niveau personnel. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'expérience religieuse. Je sais qu'avec un de mes gens, bon, lui promet une raison de ça, il est très bien, très heureux, tout ça, d'avoir pris ses distances avec les pratiques et tout ça. Mais quand on s'assoit, quand on est ensemble, puis là, on se met à poser des questions qui peuvent regarder le sens de la souffrance, le sens de la vie, la maladie, le sens de l'autre. Il cherche, il est intéressé. Et lui et ma fille, ils ont deux superbes enfants. Je dirais, la générosité, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, la présence, comme tant, je dirais, tout un chacun, on s'aperçoit qu'il y a là un amour indéfectible. Et je dirais qu'il n'y a rien à envier à personne d'autre au niveau de cette présence. On est dans un monde qui est vraiment plus porté sur la personne, sur l'individu, sur l'expérience. Et je me dis, ça, c'est quelque chose de précieux. Faire l'expérience d'une réalité, ça rejoint beaucoup aussi, je pense, les textes ou des paroles que Jésus adressait à ses disciples. Ah, vous dites des choses du bout des lèvres, mais moi, c'est votre cœur qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Qu'est-ce qui s'anime? Qu'est-ce qui s'éveille? Et là, une des choses qui est assez extraordinaire, c'est qu'on rejoint à ce moment-là quelque chose qui est assez mystérieux, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui est l'intime ou qui est l'identité de chacun. On a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais chacun est unique dans son intimité. Quelqu'un est unique dans ce qu'il a de personnel. Et c'est là que ce dont on parlait tout à l'heure, Jean-Claude, avec l'animation qui est proposée pour le mois d'avril, là, au diocèse, si j'ai bien lu, tout ça, c'est une proposition qui est faite pour réfléchir avec Monseigneur l'archevêque et avec des personnes sur ce qu'est la nouvelle évangélisation, entre autres. Avec comme préoccupation que cette évangélisation a ceci de particulier, qu'elle est actuellement comme un peu la graine de synovée qu'on met en terre, qui est toute petite et qui est appelée à germer. Un peu de la même façon, dans ce qui se passe dans le cœur de chacun, il y a des éléments qui sont là et qui sont en train de germer. La religion dont on parle, c'est essentiellement, dans ce même religion et relation, ça se ressemble, c'est quelle est la qualité de relation qui est en train de grandir en chacun, et c'est notre relation avec les autres, c'est notre relation avec l'univers, avec le cosmos. On est au cœur d'une religion qui s'intéresse à cette expérience en train de grandir. Et c'est là que dans les préoccupations qu'on a et dans notre réflexion au niveau de l'évangélisation, ce Pierre-René répète souvent ça aussi, on est beaucoup moins aux prises avec un problème de dire comment transmettre des données, des savoirs pour que tout le monde soit pareil. C'est plus ça le problème. Le problème, c'est comment favoriser une rencontre intime entre une personne et le Seigneur, pour que cette personne puisse grandir, croître et se convertir à Jésus-Christ. Et cette conversion à Jésus-Christ, elle passe nécessairement aussi par le contact avec la parole, se nourrir de la parole. Le texte de ce matin, il est extraordinaire. J'entendais cette parole, je laissais la parole entrer. Je n'étais pas rébarbatif à la parole. Nous, dans quelle mesure on est disposé à cette parole, c'est une question qu'on a à se reposer chacun. Il y a deux semaines, dans la paroisse de Sainte-Ursule, dans le cadre d'un projet sur l'année de la foi, il y a un jeune couple, un couple superbe, qui ont préparé une espèce de mise en scène sur la prière. Alors lui, c'est un beau grand jeune homme, un monsieur superbe qui est venu, qui est monté devant l'église, il y avait un prie-dieu, là, il s'est mis là, à genoux, puis il a dit aux gens, « Jésus nous invite à nous retirer dans la chambre pour prier, mais là, moi, pour cela, j'ai envie de prier ici. » Alors devant l'église qui était remplie de monde, puis là, bon, il dit, là, « Je vais faire ma prière, je m'occupe plus de vous, puis là, on a différent de c'est le Saint-Esprit, amen. » Notre Père qui es aux cieux. Il y a même, juste comme dit notre Père qui es aux cieux, on entend résonner dans l'église. Oui, tu m'as appelé. Bon, c'est quoi ça? Notre Père qui es aux cieux. Oui, tu m'as appelé. Voyons. Qui est-ce qui m'appelle? Mais tu m'as appelé. Comment je t'ai appelé? Je n'ai pas appelé personne. Je fais ma prière. Mais tu n'as pas dit notre Père? Oui, mais ça, c'est ma prière. Oui, donc tu m'as appelé. Au fond. Notre repère, est-ce que c'est une formule ou est-ce que c'est une mise en relation? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom... Ah, qu'est-ce que tu veux dire que ton nom soit sanctifié? Que ton règne vienne, puis après que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il a arrêté sa prière. Alors, il a dit, continue. Non. Continue. Non. Mais oui, tu peux... Il n'en est pas question parce que je n'ai pas envie, moi, de pardonner. Parce que quand je pardonne, nous, quand... j'ai pas envie... Quand lui, il m'a fait un coup, puis quand je vais m'être vengé, après, je vais être correct, puis je vais venir te demander de me pardonner. Ah, tu penses qu'une fois que tu vas t'être vengé, ça va aller mieux? Oui! Tu es sûr de ça? Mais je ne suis pas capable. Ah, ça, je sais que tu n'es pas capable de pardonner. Tu souffres trop. Tu es un être de souffrance. Tu as en toi cette souffrance. Mais c'est pour ça que je viens à toi. Ensemble, on peut faire un bout de chemin. Et c'est comme ça, bon, à travers cette prière, ce que nous proposait la voix de Dieu, ce qui était extraordinaire, tu vas appeler évidemment, c'était son épouse qui était cachée en coulisses et qui avait un micro, et ça résonnait dans l'église. Et j'aurais comme mise en scène cette espèce d'interpellation pour dire qu'est-ce qui est de l'ordre d'une route. Est-ce que quand j'écoute la parole de Dieu, comme on l'a lu ce matin, est-ce que je suis ouvert et attentif à laisser cette parole, parce que la parole, c'est toujours le souffle, hein, vous savez. Essayer de parler sans envoyer du souffle, c'est impossible. La parole, c'est toujours un souffle. Alors, est-ce que je suis prêt à laisser le souffle m'habiter? Est-ce que je suis prêt à inspirer cette parole? Parce que, vous savez ce qui arrive? Si j'inspire du poison, je me tue. Si j'inspire de l'amour, je m'agrandis. Si j'inspire du bonheur, je me fais du bien. Si j'inspire de l'air vicié, au fond, mais à quelque part, on est face à un texte qui nous dit, mais qu'est-ce qu'on choisit d'être? Qu'est-ce qu'on choisit d'inspirer? C'est comme ça que l'entrée, donc, dans la Semaine Sainte, c'est comme une invitation à suivre. Cette invitation, c'est aussi ce qu'on chante depuis le début du carême. Il y a un beau chant qu'on pourrait peut-être chanter. « Je veux suivre Jésus. »
Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit, si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qu'il me donne sa force et qu'il guide mes pas. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit, si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour.
Jésus, le serviteur souffrant. Dans notre manière de vie, notre manière... Puis là, c'est assez fascinant. Il y a des affaires sur lesquelles j'ai... En tout cas, vous avez lu il n'y a pas longtemps la critique du docteur Larrivé sur Sœur Teresa, où ils font des études, où il dit, ah, Sœur Teresa, elle cultivait une espèce un peu maladie par année autour de la maladie, tout ça, parce qu'elle avait trouvé que c'était quand même un bon moyen, puis avec la TV, tu fais ramasser de l'argent dans le monde. C'est une recherche, il faut prendre les questions et laisser poser. Mais en même temps, puis j'ai écouté une interview qu'il a faite et tout ça, Et là, il s'est placé dans une situation, un peu comme un gestionnaire de l'extérieur, qui avait des arguments pour critiquer. J'ai aussi vu, il y a une semaine, dans un ouvrage qui vient d'être publié par un grand historien de l'Ouest canadien, sur, il appelle ça, si j'ai bien, le jésuite ou le sacrifice des vierges. Et là, à travers son étude, il reprend l'éducation qui était promue dans des collèges jésuites où il y avait, entre autres, toute cette idée de la souffrance, de la maladie, enfin, à la limite, promouvoir une souffrance. Et c'est vrai qu'à travers toute une époque, une culture, il y avait une approche de la souffrance qui était annoncée, mais quand on regarde simplement de l'extérieur ce qui est dit sur la souffrance, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on a une espèce de réaction, de rejet total en disant on est dans quelque chose de terrible. Mais quand on parle de Jésus, serviteur souffrant, je suis pas sûr que ce dont on parle, je dirais même le contraire pour ce qu'Alphonse nous a dit lors d'une réunion qu'on a eue il n'y a pas longtemps, Jésus, c'est pas un doloriste, puis c'est pas quelqu'un qui court après la souffrance. Jésus, c'est quelqu'un qui la voyait et qui en souffrait. Si vous lisez les textes d'Évangile, Jésus a pleuré quand il assistait à la souffrance de Marthe et Marie à la mort de son frère. Jésus a réagi quand il a vu le centurion désemparé à cause de sa fille qui était mourante. Jésus, il est toujours intervenu pour combattre le mal, combattre la douleur, combattre la souffrance qui était liée à la maladie et tout ça. C'est pas de ça dont on parle. Quand on parle du serviteur souffrant, tout d'abord, on parle du serviteur. Ça, il y a un mot qu'il ne faut pas sauter trop vite. Le serviteur dont parle Isaïe, tout comme le serviteur dont parle Jésus quand il dit au lavement des pieds, « Je vous ai fait ceci pour que vous voyez, pour vous montrer comment faire. Je suis ici au service des gens. » J'ai un problème technique. Je parle trop vite, c'est le feu. Bon, je vais y aller plus lentement. Bon, c'est le feu, je me suis... OK, je vais essayer, tu me le diras encore. Donc, c'est parce que quand je parle lentement, j'oublie mes idées. Je souffre. Alors, dans cette expérience de la souffrance dont on parle, c'est que Jésus, il était là pour, à la fois, combattre, mais il était le serviteur. Le serviteur, c'est parce que aussi on est pris dans des notions, on est pris dans nos cultures. C'est sympathique, hein, vous correct? Ah, OK. Il y a un grand scientifique qui s'appelle Théodore de Champin qui a écrit, entre autres, le phénomène humain. Et puis, à un moment donné, dans le quatrième chapitre du phénomène humain, il y a un titre qui appelle la survie. Et là, ce qu'il va aborder à travers ça, il dit, qu'est-ce qui va permettre, non pas la survivance de se dépanner, mais qu'est-ce qui peut permettre à l'univers entier et à l'humanité de survivre? Et au début de son chapitre, il va situer deux impasses. Il dit, il y a deux choses qui vont empêcher la survie. La première, c'est que chaque individu, quand il arrive à un certain niveau, on appelle ça le niveau de la connaissance, c'est que chacun disant, moi, étant rendu ici, je suis ici pour dominer, pour trôner sur tout le monde. Je suis ici pour assujettir les gens. Et plus je vais assujettir, plus je vais être fort. Ça ressemble un peu, des fois, à un système économique, où en disant, les riches en ont toujours plus à ce niveau-là, mais là, on est dans le monde des affaires. Et je dirais, un riche qui est riche en disant, plus j'en ai, moins les autres en ont. Et souvent, lui, il va dire, moins ils vont en avoir, plus je vais en avoir. Alors là, tu es sûr qu'avec une affaire comme ça, Théodore de Champin, tu t'en vas vers l'impasse et vers la destruction totale. Et puis, L'ensemble de l'évolution de la matière, c'est comme ça quand on dit c'est la loi du plus fort, à un moment donné. Les dinosaures étaient les plus forts, ils ont régné, mais à un moment donné, il est arrivé des choses, puis ils ont pu survécu, puis c'est une autre race qui est arrivée. Puis finalement, à travers ça, ce qui est fabuleux, c'est de voir que arrive une espèce qui franchit, après ça, le poids de la conscience, qui peut réfléchir. Et elle, cette espèce-là, peu importe d'où elle vient, que ce soit des noirs, des jaunes, des verts, peu importe comment ça s'est arrivé, mais à travers cette espèce-là, il y a un pas qui arrive, puis à un moment donné, les gens, au lieu de dire simplement, « Ouais, ça fait mon affaire, je veux ça, j'en donne pas aux autres, j'en prends. » À un moment donné, on réalise que si j'apprends pas à vivre avec d'autres, si j'apprends pas à établir des liens, des relations, on se détruit. C'est uniquement dans l'harmonie qu'on peut grandir. Alors ça, c'est une des impasses, c'est donc le repliement sur soi et le pouvoir absolu. Et l'autre impasse qu'il dit, c'est l'impasse qui va dans la ligne d'un racisme. En disant là, au lieu d'être juste un individu, c'est une race qui dit, nous, on est les meilleurs, puis il faut détruire les races inférieures, tout le problème du nazisme et tout ce que ça a provoqué avec la Deuxième Guerre. Alors ça, c'est deux impasses. Mais par contre, il va dire, plus on grandit, l'être humain, à cause de sa pensée, il peut lui arriver et réfléchir, songer et faire des choix. Et est-ce que ces choix, ça va être de détruire la création, de détruire l'univers, ou si ça va être de apprendre à composer pour arrêter de polluer? Mais en même temps, apprendre à composer pour permettre à chacun de pouvoir vivre, permettre à chacun de se réaliser dans ses capacités, dans son identité. Et à ce niveau-là, il y a toute une dimension où on réalise que chacun, il est appelé à être serviteur. On est appelé à être au service, mais je dirais pas d'une manière servile comme ça, mais être au service, ça veut dire qu'on sert à quelqu'un et on sert quelqu'un. Les parents servent leurs petits-enfants. Ils sont à leur service. Dans notre société, dans notre milieu, on peut s'aider les uns les autres. Et c'est quand on est au service que les choses se mettent en place et grandissent. Jésus, il est la parole du Père. Quand on dit Jésus est serviteur, on dit quelque chose qui est de l'ordre de son identité. Quelque chose qui est de l'ordre de sa... C'est pas simplement une attitude, « Ah, OK, il va te rendre service. » On ne parle pas de ça. Être serviteur. Je suis le serviteur de mon Père. Je suis la parole de mon Père, ce que dit Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Jésus s'est incarné. Et tout au long de sa vie, il a vécu ce service. Servir. Servir dans l'amour. Servir, comment je dirais ça? Il faudra trouver un mot pour dire à la fois servir, c'était les actions qu'il faisait, mais servir, c'était sa nature profonde. Alors, quand on parle de souffrance, ce qu'on apprenait en faisant des sacrifices, l'intention était bonne et c'est très bon. Pareil comme dit Saint Paul, comme l'athlète qui veut devenir un bon coureur, lui, il va faire des sacrifices, il va courir, il va faire des choses, il se pratique. Il va souffrir pour atteindre son objectif. Il souffre, c'est pas parce qu'il est maso s'il veut devenir gagner la médaille aux Olympiques, c'est parce qu'il prend les moyens pour y arriver. La même chose, apprendre à être au service à un moment donné, quand on dit il y a des faiblesses, il y a des péchés, il y a des maux qui ne se combattent que par le jeûne, la pénitence, l'aumône. Ça, c'est des textes qu'on trouve dans l'Évangile. Ces réalités-là, c'est pas de dire il faut faire l'aumône pour l'aumône, mais c'est pour apprendre à être plus libre, plus grand, être au service. Alors, dans cette approche-là, le serviteur souffre. Il y a des souffrances, là. Évidemment, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal à quelque part, quand je suis blessé, c'est mon travail d'essayer de me soigner puis d'enlever parce qu'on n'est pas des dolorosistes. C'est pas des dolorosas. Ça m'arrange, je suis content encore. Ça n'a pas de bon sens. Mais, quand je vois une maman qui, à un moment donné, voit son petit bonhomme, tout à coup, qui est malade, ou qui a eu tel pépin, ou qui a eu telle chose, combien de fois j'ai entendu des mamans ou des papas dire, je ferai tout pour que ce soit moi qui aie ça plutôt que lui. Là, ça, c'est de la souffrance. Là. Alors, si je vais arriver et dire, ben voyons, fais-toi ça pas, il est malade, là, il a ce pour se voir, mais c'est pas grave, c'est tout comme ça. Vous allez l'envoyer promener, ça va pas. Parce que cette souffrance-là, c'est pas quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui nous transperce. C'est quelque chose qui est là, qui, d'un bout à l'autre, à travers nous. Et puis, si on perd un être cher, si on vit, c'est une souffrance qui ne peut pas partir. Elle nous transforme. Évidemment, elle peut s'atténuer. On apprend à vivre avec. Alors, est-ce qu'on est maso? Mais pourquoi on vit ces réalités-là? Et c'est là que la souffrance, cette souffrance dont je parle, et cette souffrance, tout d'abord, nous révèle une chose. Elle nous révèle à quel point on est lié et attaché aux gens qu'on aime. Plus la personne blessée est grande dans notre amour, plus la souffrance qu'on a va être énorme. On souffre à un niveau parce que souffrir, c'est la même chose qu'on soupire. C'est ça que ça veut dire aussi. On soupire après le bonheur. Et en même temps, c'est qu'on est des êtres d'espérance. On veut la joie. On veut le bonheur. On veut le bien-être des gens qu'on aime. Et plus on grandit, on veut la justice pour le monde. On grandit là-dessus. Et c'est ce manque de justice, ou c'est ces blessures, ou ces morts, qui frappent les gens qu'on aime, qui viennent nous transpercer. Et ça, je dirais, c'est des expériences au cœur de chacun. Nous allons, si vous voulez, laisser porter un peu la parole à, c'est quoi la prochaine chanson?
Un petit refrain, c'est parti.
Oui, vas-y.
Par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes guéris.
C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes guéris. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes guéris.
Merci.
Est-ce que j'apprends ce que je te dis?
Non, c'est bon. On va attendre nos deux. Jésus, serviteur souffrant. Je pense que c'est le mercredi des Cendres de... On a lu un texte d'Évangile. Dans ce texte, on nous racontait les tentations de Jésus au désert. Alors, vous savez, la tentation, il y en a trois. Je vais juste retrouver ces tentations. La première, bon, vous savez, Jésus, dans sa vie, il a pris ses premiers disciples et s'est retiré au désert. On est au début de sa vie publique. Alors, il a grandi, il serait un peu comme nous, là. Quand on est petit, là, puis qu'on vient au monde, là, on est vraiment beau. On est les rois du monde. C'est comme une fleur à l'avion, elle est belle. Quand on est au monde, on est le centre du monde. Après ça, c'est extraordinaire. Et puis, tout le monde nous donne tout, puis tout ça. Mais à un moment donné, c'est pas long, quand on arrive 2-3 ans, puis que là, on fait pas... Là, tout à coup, on arrive, puis on s'abat. Mais les premières années sont importantes d'être le centre du monde, parce que ça nous construit. Et après être devenu le centre du monde, ça nous donne toute la force, ça, pour apprendre tout à coup à jouer notre rôle et à devenir serviteur dans le monde. Et pour apprendre à être serviteur, c'est sûr qu'il faut retrouver aussi nos racines. Si on n'a pas des bonnes racines... L'arbre va avoir de la misère à porter des fruits. Enfin, ça, Alors Jésus, lui, il a eu ses racines pendant toute sa vie privée. Il a grandi en sagesse, en grâce. Il était le roi du monde, il était aimé, moi, tout ça, hein, avec ses petits problèmes. Ça. Et puis là, quand il est devenu grand, il va au désert. Première tentation. Si tu veux, tu peux transformer ces pierres en pain. Et ainsi, si tu acceptes de faire ça, parce que tu as le pouvoir, tu vas pouvoir combler de faim tout le monde. Tu vas pouvoir, en même temps, avec ça, enlever toutes les difficultés et devenir, ce qu'on pourrait dire, celui qui comble la faim terrestre des gens. Les gens n'auront plus faim sur Terre. Au fond, nous aussi, est-ce que dans les choix qu'on fait, dans ce qui nous est offert, on n'a pas aussi envie de pouvoir combler nos appétits terrestres? Mais Jésus, lui, il va dire, non, moi, je ne suis pas venu pour les appétits terrestres, mais je suis venu pour apporter la parole de Dieu, pour construire un cœur ouvert sur Dieu et sur le monde. La deuxième tentation, c'est de prendre le pouvoir politique, de dominer à toutes les nations. Est-ce que nous aussi, parfois, on n'aimerait pas ça, avoir plus de pouvoir, être écouté, puis arriver à pouvoir décider des choses, sans toujours avoir des pépins? Mais lui, Jésus, il répond à Satan, « Je ne suis pas venu pour dominer le monde, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père et annoncer le royaume. » Une troisième tentation, faire ce geste spectaculaire, « Tire-toi en bas des falaises, et, merci, tire-toi en bas des falaises, et si tu te tires en bas, les anges vont te porter tout ça. » On aimerait ça, nous aussi, des fois, être des Superman, un peu des Harry Potter, savoir, être au-dessus des contingences. Mais ce que Jésus dit, non, c'est pas pour ça, moi, je suis venu pour donner ma vie. Et finalement, il va donner sa vie à tel point qu'il va aller jusque sur la croix d'esclave. Au fond, la croix qui vient confirmer que tout est un échec total. Il n'y a plus rien qui a du bon sens. Et tout à coup, contre toute attente, c'est sur cette croix que va se produire le miracle, par le passage sur la croix, qui fait qu'une fois que tout est fini, ce Jésus, son Père, le ramène à la vie. Il est allé au bout du projet de Dieu. Il est dans le royaume. Au fond, si le premier Adam, il est aussi en nous. Si le premier Adam avait voulu faire sa vie par lui-même, pour faire sa vie par lui-même, il s'est allié au diable pour devenir l'égal de Dieu. Si tu prends de ce fruit, tu seras l'égal de Dieu. Et Jésus, le nouvel Adam, refuse de ce pacte proposé par le diable. Fils de Dieu, c'est un fils d'homme. Il veut être homme jusqu'au bout, dans le corps, dans la souffrance, dans ce qui existe. Il veut être homme tout entier, pareil comme le grain de sénévé qui veut grandir, va accepter d'être grain jusqu'au bout, c'est-à-dire tomber en terre. Et là, pourrir, perdre sa force de grain pour tout à coup devenir un germe et permettre à une nouvelle vie de pousser de manière incommensurable. C'est ainsi que le Fils de Dieu se veut aussi en fils d'homme. Et ce serviteur va vivre cette souffrance du mal, du péché, de tout ce qui peut nous blesser. Il va la vivre jusqu'au bout et il va accepter cette souffrance comme l'humanité jusqu'au rejet total. Et les gens vont le regarder dans le texte d'Isaïe, on nous dit ça, il est là sur la croix, il va mourir, il est objet de rejet, déception. Et c'est là qu'au terme, ce serviteur fichu aux yeux des hommes devient celui qui, ayant accepté de porter cette souffrance, va renaître comme le grain de sénévé germe et germer dans le royaume, grandir dans le royaume et advenir dans le royaume. Autrement dit, la souffrance qu'on a face aux souffrances des gens qui peinent. Le serviteur souffrant, il ne souffre pas simplement par masochisme, mais c'est parce qu'au cœur de cette souffrance, c'est une souffrance de croissance, de libération. On a grandi, on prend de la place, mais on grandit vers le royaume, vers une espérance. Et c'est l'espérance que nous annonce Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. On pourrait peut-être chanter juste un ou deux couplets de « Au quoi dresser sur le monde ».
Au croix
dressé sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, au croix de Jésus-Christ.
Fleuve dont l'eau féconde. Les textes qu'on lit, quand on lit le texte du serviteur souffrant, c'est un peu comme une parabole. Ce texte d'Ésaïe fait partie de 4 poèmes qu'on retrouve dans les textes qui ont été mis dans le livre d'Isaïe. Et on nous parle donc de ce serviteur qui reçoit une mission de justice. Une justice qui est à reconnaître. Il reçoit une mission de guérison. Il y a une souffrance à combler. La mission de guérison qu'on a par rapport aux gens qui souffrent, il y a une mission de guérison au cœur de l'humanité, et aussi une mission universelle pour toute la nation. L'humain, il porte en lui tous les humains. Je vous invite à écouter le texte qu'on va lire vendredi, à la première lecture, vendredi saint. On reprend Isaïe, mais tout à l'heure, on a lu un extrait du chapitre 50. Là, c'est au chapitre 52 et au chapitre 53. Et là, c'est le Seigneur qui parle de son serviteur. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Mon serviteur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » La multitude, l'humanité, avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici que c'est lui qui consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, ce serviteur a poussé comme une plante chétive, qui était enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré au tombeau avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Il a plu au Seigneur, c'est pas le plaisir morbide, c'est que quand on dit « s'il te plaît » ou « il a plu au Seigneur », je veux satisfaire, je veux te montrer que même jusque-là, je te reste en relation, je te reste fidèle. Et que parmi les humains, désormais, il y a un d'entre nous qui n'a jamais rompu son alliance avec toi. Tout ça, je l'ai fait pour être en lien, être en harmonie. Et si désormais un parmi les hommes a plu au Seigneur, c'est avec lui et à sa suite que l'humanité peut plaire au Seigneur, c'est-à-dire entrer dans le projet de Dieu. Broyé par la souffrance, on pourrait dire qu'il a continué à être fidèle au Seigneur, à plaire au Seigneur. Il ne s'en est pas détourné. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. À cause de la souffrance de la mère qui porte l'enfant, l'enfant verra le jour. À cause de ses souffrances, de ce souffle qu'il traverse, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste bon serviteur justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Cet être de Jésus, c'est ce serviteur souffrant, c'est ce serviteur fidèle. C'est lui, ce Jésus, qui a été révélé aux apôtres, qui a rencontré les apôtres, qui a guéri, qui est venu au monde. Et ce Jésus nous a montré le chemin. Ce Jésus, serviteur souffrant. La souffrance est à la grandeur de la passion. Et ici, je parle de la passion. La passion que j'ai pour mes petits-enfants, la passion que j'ai pour ma femme. Des fois, elle me trouve un peu gauche, ça, c'est pas grave. C'est de la passion. La passion qu'elle a pour moi. Cette passion, c'est elle qui est au cœur de nos choix. Ce qui fait un grand saint, ce n'est pas ses grandes études, ce ne sont pas ses grandes études, c'est sa passion. Le saint Quirédas, c'était un passionné de Jésus. Il l'avait découvert dans son expérience et il avait une passion. Saint Paul était un passionné du Christ. Il est devenu passionné sur le chemin de Damas. Lui qui, avant le chemin de Damas, était un juif excellent et qui dit dans ses textes, il n'y a personne qui pratiquait mieux sa religion que lui-même. Et lui, il n'y a personne qui était mieux que lui pour défendre la religion en allant combattre et en allant tuer les chrétiens. Et en allant combattre tous ceux qui s'étaient repliés sous l'égide de la croix. Parce que la croix, c'est l'infamie suprême. Et pour lui, dans sa connaissance, cette croix, c'était le châtiment et ceux qui étaient morts sur la croix, c'étaient les plus grands impies. Et tout à coup, sur le chemin de Damas, ce qui arrive, c'est qu'elle l'a... croix vient être plantée dans son cœur et dans sa vie. Et tout à coup, il découvre que, ce que vient de dire le texte aussi, c'est la chose incroyable, l'abomination, le rejet, tout ça, c'est tout à coup le signe de la libération parce qu'il est passé sur cette croix dans une obéissance totale comme le serviteur souffrant. Et tout à coup, ce serviteur souffrant, il est le premier parmi les hommes à venir à la vie éternelle, à entrer dans cette vie éternelle. Et c'est ainsi que Paul va toute sa vie ensuite, à travers ses écrits, parler de ce Christ crucifié. Et il va dire, bien sûr, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais à travers cette résurrection, la croix prend un tout autre sens. Comme à travers les souffrances qu'on peut subir, qu'on peut vivre à travers des êtres chers, en même temps, on découvre des dimensions de notre être, on est plongé dans un mystère, et c'est un mystère qui nous invite à grandir en nous mettant à l'écoute, à la suite du Christ qui veut nous indiquer son chemin. Au fond, Israël porte le Christ comme une mère porte son enfant, sans savoir ce qu'il deviendra. Le Christ a été planté dans ce peuple, dans cette humanité. Cet enfant grandit aussi en chacun de nous, jusqu'à la plénitude de la stature. On est invité, depuis notre baptême, depuis notre vie, à laisser grandir cette qualité d'être enfant de Dieu, comme le Christ nous l'a appris. Confessant la vérité dans l'amour, recherchant la vérité, mais dans l'amour, nous grandissons à tous égards vers le Christ. Comme Jésus, et à notre tour, nous avons nous aussi à porter notre monde d'aujourd'hui, nos proches et les gens un peu moins proches. Avec le nouveau pape qui, c'est extraordinaire, en prenant le nom qu'il a pris, François, et en le restituant par rapport à ce François qui a pris en lui le monde entier, quand il parlait de notre frère le soleil, notre sœur la lune, notre mère la terre, enfin. Ce n'était pas de la poésie, c'était l'expérience profonde de qui on est. Au fond, à travers tout ça, nous, chrétiens, comme le Christ, nous sommes aussi invités à reconnaître qu'il y a des souffrances qui sont des chemins de grandissement, de croissance. Mais chacun de nous est invité à vivre à l'image du Christ, tout simplement dans sa vie. Ne pas répondre à l'insulte, ne pas menacer, ne pas avoir dans notre bouche de la tromperie. Comme Paul aussi nous le disait, nous portons en nous la croissance du corps du Christ. Donc, qui est Jésus, serviteur souffrant, quelqu'un qui est intimement près de nous, c'est quelqu'un qui nous porte déjà en lui et qui nous invite à l'accueillir et à le suivre, à devenir serviteur, mais serviteur au sens donné par Jésus, un serviteur libre, amoureux. On pourrait peut-être terminer avec un petit chant, « Tu es là au cœur de nos vies ». Vous connaissez, on va le chanter avec toi.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, ô Jésus-Christ.
Dans le secret.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.